Recevons un invité dont la vie est encore plus magique qu'un film de Noël. Il est originaire de la région de Bordeaux, en Gironde, né dans une famille modeste. À l'école, il se sentait un peu différent. Il n'était jamais choisi dans les équipes de sport et les autres élèves se moquaient de ses manières délicates. Son refuge, il le trouvait dans la musique pop. Il écoutait Étienne Dao, Lio, Élie et Jacquenot. Son rêve, les rencontrer, les côtoyer, faire partie de cette famille d'artistes qui, il en était certain, comprendrait beaucoup mieux quel genre de garçon il était que la plupart des gens de son âge. Et ce rêve, il l'a réalisé. Dorian est en effet devenu parolier pour des artistes majeurs de la chanson française, Alain Bachung, Michel Polnareff, Mika, Lio, Sylvie Vartan, Camélia Jordana. Un métier peu ordinaire qu'il raconte dans un livre paru récemment aux éditions Léo Cher, Un homme de parole. Il est notre invité ce matin. Bonjour Dorian.
Bonjour.
Un homme de parole, c'est à la fois l'histoire de votre rêve qui se réalise, l'audace, les coups de pouce du destin qui vous ont mené à exercer votre métier de parolier, mais c'est aussi une plongée dans les coulisses de la chanson française. Vous racontez les séances d'écriture avec Mika, Polnareff, Bachung, le petit caractère de certains, et puis aussi les périodes sans, les moments où vous vous demandez si vous êtes encore capable d'écrire un tube. Je rappelle aussi que vous êtes auteur, compositeur, interprète, vous avez publié 5 albums, et vous dites que vous êtes né à 21 ans, à cause d'un coup de téléphone d'Étienne Dao. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, Dorian ?
Ce jour-là, j'étais chez mes parents, à Saint-Médard-en-Velle. On était en train de déjeuner, c'était un dimanche. Et j'interroge mon répondeur à distance. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, donc tout était un petit peu plus compliqué. Et j'entends, en interrogeant mon téléphone, un message, et j'entends une voix que je connais, mais j'arrive pas vraiment à identifier, et c'est Étienne Dao qui me dit: j'ai reçu ton disque, j'ai trouvé ça vachement bien, bonne chance, ciao. Et ça s'arrête là, et je me dis: mais c'est pas possible, donc c'est la chance de ma vie. J'avais envoyé donc à des gens que j'aimais bien, des artistes, et c'était le seul qui m'avait fait ce signal. Donc je suis rentré chez moi, dans mon appartement où clignotait le répondeur, en écoutant ce message, en espérant qu'il rappellerait, qu'il ne m'avait pas laissé de numéro pour le rappeler. Et j'ai attendu longtemps, et bon, il ne m'a pas rappelé, mais la vie a fait qu'on s'est rencontrés par hasard, 3 semaines après à Paris, dans une boîte de nuit, au Folies Pigalle, où c'était la première fois que je mettais les pieds à Paris. Donc voilà, quand la vie nous attend quelque part, c'est assez incroyable.
Et parfois, vous forcez aussi un petit peu le destin, hein, parce que vous racontez aussi comment vous débarquez chez Lio, votre idole, absolument sans prévenir. Et alors, le plus étonnant dans cette histoire, c'est qu'elle va super bien réagir, elle va même vous accueillir chez elle. Racontez-nous.
Alors, en fait, quand on est fan et qu'on veut vraiment faire ce métier, on est complètement inconscient. Enfin, c'est pas qu'on est inconscient, c'est qu'on a peur de rien, finalement. On sait qu'il faut le faire, c'est pas possible autrement. Donc, je vois dans le journal Sud-Ouest que Lio vient de s'installer en Charente, c'est à 1h30 de chez moi, près d'Angoulême. Et donc je prends ma voiture, un jour il neige comme ça, et je pars à 2 à l'heure. Je me dis: je vais frapper, je vais trouver sa maison. Et donc c'est comme un détective privé, quoi. Je demande aux gens où est le village de Lio. Après j'arrive, je vois un papy devant un bureau de tabac qui me dit « Oh ben vous pouvez pas la louper, c'est la maison qui a des volets roses. » Donc en fait, j'arrive devant cette maison, je frappe, et le compagnon de Lio à l'époque me dit: non, elle n'est pas là. Bon, c'est pourquoi. J'ai dit: écoutez, voilà, je voulais lui remettre mon CD que j'avais autoproduit et lui dire que voilà, que j'aime beaucoup ses chansons depuis toujours, et je voulais lui dire bonjour. Bon. Il dit: non, elle n'est pas là, elle vient d'avoir un enfant, elle se repose à Paris. Bon. Donc j'étais avec une amie, on repart tous les deux un peu dépités d'avoir fait toute cette route et de repartir en sens inverse. Et là, j'entends: ouh, bon, allez, c'est bon, venez. Et là, c'était Lio qui était chez elle, dans sa cuisine, en train de prier du courrier, qui me dit: bon, venez, il fait froid, venez boire un café. Et on est resté 2 heures, on a discuté, et voilà, et 15 ans après, j'ai fait un album pour elle. C'est ça qui est fou.
Cette rencontre, elle va aussi changer votre vie, comme le coup de fil d'Étienne Dao, parce que la première personne pour qui vous avez écrit des chansons et celle qui vous a fait comprendre que vous pouviez aussi écrire pour d'autres, c'est la sœur de Lio, c'est Elena Noguera. Et à propos d'elle, vous écrivez: une muse, c'est déjà la moitié du travail fait. Est-ce que ça veut dire que pour écrire pour une ou un artiste, il faut être un peu amoureux de lui ou d'elle ?
Oui, je crois qu'on tombe amoureux. On tombe comme un comédien qui est dans un rôle, finalement, qui devient l'autre. on devient l'autre quand on écrit pour quelqu'un. Et c'est une manière d'aimer aussi. C'est une façon de rentrer dans un personnage et de le comprendre, de le rendre beau avec des mots qui vont bien lui aller. Essayer de trouver aussi ses failles. Donc c'est vraiment, forcément, c'est une forme d'amour très différente, mais c'est une forme d'amour, oui.
Et eux, comment ils réagissent? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens à qui vous avez, par exemple, l'impression de faire du bien, ou bien d'autres qui sont un peu mal à l'aise parce que vous les scannez trop?
Lio, par exemple, il y a une chanson qui s'appelle « Dans les bras d'un enfant » que j'ai écrit pour elle sur l'album « Dites au prince charmant ». Ce texte parle de quelqu'un qui fait... Elle a fait plein d'enfants, Lio, elle a 6 enfants. Je raconte peut-être ce malaise de porter un enfant pour combler un vide. Le vide du manque amoureux. Et que finalement, cet enfant qui remplit quelqu'un parce que justement l'amour n'a pas réussi à la remplir finalement parce que c'était des histoires compliquées, etc. Et cette chanson, elle l'a à la fois fait du bien, mais aussi du mal, parce qu'elle a pleuré en l'enregistrant, c'était un moment très fort. Mais ça reste, je sais, je l'ai entendu dire ça dans des émissions, une des 3 chansons les plus importantes pour elle, avec Amoureux solitaire et je ne sais quelle autre. En tout cas, c'est une chanson qui, sur le moment, a dû lui faire du mal, parce que ça tapait juste peut-être dans une émotion qu'elle n'avait peut-être pas jamais formulée. Mais avec le temps, peut-être elle a compris des choses avec cette chanson.
Et puis votre nom, Dorian, évidemment, comme vous êtes bon, il va circuler. Jusqu'à votre premier tube, c'était pour le groupe L5. C'était le single « Toutes les femmes de ta vie » qui a super bien marché. Vous avez aussi écrit les paroles de la chanson qui a propulsé Camélia Jordana. Barbara. Quand vous écrivez un texte qui devient un tube, alors vous êtes content parce que c'est quand même comme ça que vous gagnez votre vie. Mais vous dites aussi dans ce livre que dans le métier, ça n'est pas forcément bien vu. D'écrire un tube, c'est même d'une certaine manière perdre sa crédibilité. Pourquoi?
Parce que les tubes sont souvent pris pour une facilité. Or, c'est tout à fait l'inverse. Écrire une belle chanson, c'est plus facile que d'écrire une bonne chanson. Et une bonne chanson, c'est une chanson qui va justement ne pas s'adresser à une chapelle, mais vraiment essayer de s'adresser à tout le monde et de toucher, en tout cas, le plus grand nombre. Et sur le moment, souvent, c'est assez mal vu. Il y a des chansons qui, comme Toutes les femmes de ta vie, à l'époque, il y avait des gens qui avaient l'impression que j'avais été un traître de participer à ce programme, qui était le début de la télé-réalité, c'était diabolique pour plein de gens. Et cette chanson est devenue culte avec le temps, parce qu'aujourd'hui, elle est encore chantée partout, dans les karaokés, dans les fêtes, dans les soirées. Et j'aurais jamais imaginé ça à l'époque, où, quand elle est sortie, elle était vue comme... Voilà, comme une chanson de facilité pour gagner de l'argent, etc. Alors que c'est pas si simple d'écrire un tube, on n'en écrit pas tous les jours. Et quand on en a un, ça reste toujours de l'ordre du miracle.
Vous dites d'ailleurs, quand on a écrit un tube, on le sent. Qu'est-ce qu'on sent exactement?
On sent qu'il nous échappe. C'est-à-dire qu'au moment où on écrit la chanson, il y a quelque chose qui nous échappe, c'est comme si elle ne nous appartient déjà plus. Et c'est aussi faire apparaître une chanson comme si elle avait toujours existé. C'est un peu un ovni. On a l'impression que la chanson va nous dépasser parce que les gens vont se l'accaparer très vite. Il y a quelque chose comme ça qui est presque magnétique.
Vous racontez aussi vos séances d'écriture avec les artistes. Vous les épargnez pas, hein. D'ailleurs, vous racontez le sale caractère de certains, les caprices d'autres. Il y a un artiste notamment avec lequel vous ouvrez et vous refermez votre livre, Dorian, c'est Michel Polnareff. Alors lui, il est vraiment dans son monde, hein. Il a un côté un peu diva, et il pourrait être antipathique, mais en fait, vous avez une espèce de coup de foudre à nouveau pour lui, qui vient pas forcément tout de suite, mais vous racontez des moments quand même très très beaux. Qu'est-ce qui s'est passé entre Michel Polnareff et vous? Comment est-ce qu'il faut le prendre pour réussir à ce qu'il ne vous mette pas dehors? Parce que c'était l'époque où cet album ne sortait pas et où on disait qu'il mettait dehors tous les gens qui essayaient de travailler avec lui. Et lui, il vous adopte. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est pas lui qui m'adopte. Je l'ai un peu forcé à m'adopter. C'est plus ça. En fait, je suis parti là-bas. On m'a dit, va essayer d'aider Michel à écrire les 4 textes qui lui manquent pour son album. Et j'y allais presque perdant en me disant, bon, j'ai peut-être rien à perdre, mais il avait tellement renvoyé les gens, les auteurs, etc., et des sessions d'enregistrement, que c'était un album qui semblait une arlésienne, en tout cas quelque chose qui ne sortirait jamais. Et j'y suis allé en me disant, si j'y vais quand même, il faut que ça se passe bien. Et ça a commencé très mal. On a commencé à parler d'un texte en particulier, puis il m'a dit, je vois pas ça du tout comme ça. Et là, j'ai senti vraiment qu'il voulait se débarrasser de moi et me renvoyer tout de suite en France, parce que j'étais parti le rejoindre à l'autre bout du monde, quand même, dans le désert, en Californie, à Palm Springs. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Et donc, je lui ai dit, vous voyez ça comment? Et on a commencé à parler de notre intimité, de nos enfants, de plein de choses, de la vie, pour finalement, les chansons, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'aller plus vite dans la relation amicale. Parce qu'on, pour écrire une chanson, on parle de sujets intimes. Et là où l'amitié classique qu'on peut avoir tous les jours demande certains protocoles, certains codes, c'est plus long, on rentre dans l'amitié des gens, mais avec un petit peu de prudence et de temps et de pudeur. Là, le fait de parler, d'écrire des chansons, cette pudeur, elle tombe tout de suite, automatiquement, et on rentre plus vite dans une intimité et dans une proximité. Et c'est ce qui s'est passé avec Michel. Je pense qu'après, il s'est rendu compte aussi de mon parcours, de mon travail. Il a vu aussi, je crois qu'il a eu confiance. C'est quelqu'un qui a aussi besoin de temps pour donner sa confiance. Et c'est aussi quelqu'un d'instinctif. Donc je pense que voilà, pour ce disque-là, en tout cas, on ne s'est pas trompé l'un et l'autre, puisqu'on a réussi à les terminer, ces textes, et à ce qu'il retourne derrière un micro, parce qu'il n'y arrivait plus, et que je pense que j'ai été là pour le soutenir et jusqu'au bout, parce que j'étais même là au-delà des textes. J'étais là aussi pour l'accompagner en studio, enregistrer.
Vous racontez d'ailleurs comment vous essayez de ruser pour qu'il se mette à chanter, pour qu'il se mette derrière le micro. On vous suit vraiment au plus près de votre vie de parolier à ses côtés. Il y a un autre artiste qui semble d'ailleurs être le moins star dans tout ce dont vous parlez, c'est Alain Bachung. Les passages dans lesquels vous parlez de lui sont très émouvants, je trouve. Qu'est-ce que vous êtes parvenu à comprendre sur... qui était vraiment Alain Bachung?
J'ai été touché par l'humilité du personnage, déjà, et puis aussi une vraie féminité en lui, totalement assumée, dans le sens où il n'avait pas peur de la tendresse. Ce qui est très beau chez les hommes, je trouve, en fait, de ne pas avoir peur de la tendresse et de savoir s'exprimer d'une manière, justement, pas machiste, entre garçons. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très beau chez lui, comme quelque chose de très moderne aussi, dans l'approche de l'amitié entre hommes et dans la collaboration aussi de l'écriture de textes. Après, c'était quelqu'un de très complexe dans sa manière d'aborder les mots, donc il fallait toujours aller chercher une poésie. Il se méfiait des bonnes idées, donc il avait toujours tendance à vouloir aller chercher plus loin que l'évidence. Et moi, il m'a appris énormément de choses. Il m'a appris la poésie, finalement, parce que quand je me suis mis à travailler avec lui, je me suis mis à lire énormément de poésie. Je sentais qu'il fallait que je trouve quelque chose de nouveau aussi dans ma manière d'écrire pour lui. On a réussi finalement à faire quelque chose qui me ressemble et qui lui ressemble, notamment cette chanson La mariée des roseaux ou Nos âmes à l'abri, où ce sont des chansons pop et finalement pas si abstraites que ça. Et moi je voulais l'emmener à ça, parce que finalement le côté abstrait ou presque surréaliste de Bachung, c'était pas ce que moi je pouvais lui apporter. Et je sais que s'il m'avait fait venir, c'était pas pour me demander d'être autre chose que moi. Donc je pense qu'on a réussi cette collaboration en restant nous-mêmes l'un et l'autre. J'ai découvert un personnage qui est touchant et qui me touche encore et à qui je pense très 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 souvent.
Dorian, vous racontez cette intimité avec les artistes avec lesquels vous travaillez, et puis votre intimité aussi, parce que en fait, votre vie, c'est des moments d'effervescence à deux, où vous écrivez avec les artistes, et puis parfois... plus rien. Il y a des phases de rien qui ont l'air quand même très difficiles à vivre. Si vous redeveniez le Dorian de 21 ans, est-ce que vous referiez la même chose?
Forcément, parce que quand on le fait, on n'a pas le choix. Et le fait d'être acteur comme ça de sa propre vie, de ses propres rêves, parce que les rêves, ils ne servent que si on les réalise, finalement. Ce ne sont des rêves que si on les réalise. Il faut les nourrir, il faut les construire. Des rêves, ce ne sont pas des choses qu'on attend, ce ne sont pas des choses inaccessibles. Ce sont des choses concrètes qu'il faut nourrir. Et faire grandir en soi. Donc forcément, je pense que je referai la même chose puisque je ne me suis jamais laissé le choix à cette époque-là.
Mais en tout cas, c'est un plaisir de vous lire et de lire comment vous avez réalisé vos rêves. En tout cas, ça donne envie aussi de se lancer, de ne pas avoir peur. Et c'est ce que vous dites aussi, ne pas avoir peur du ridicule. Et voilà, mais c'est super important. Et donc, c'est un excellent livre. Ça s'appelle « Un homme de parole », signé de vous, donc, Dorian, aux éditions Léo Cher. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.
Merci à vous, c'était un vrai plaisir. Et